Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Cette campagne, mais c'est une campagne de merde.
Nous ne sommes pas en guerre.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien ?
Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.
Je m'en fiche, royalement, totalement, présidentiellement.
Nous sommes en guerre.
À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, vous êtes racistes !
Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse.
La bienveillance et le respect nous caractérisent.
Ah, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, nous aussi la bienveillance nous caractérise. Nous essayons simplement d'être un peu lucides et d'avoir un peu question à tout, comme vous le savez. Dans les circonstances un peu, allez, on dira pas dramatiques, mais quand même problématiques qui nous occupent. Eh bien, on va parler de tout cela. On va parler notamment du corps diplomatique. Et oui, d'un seul trait, d'un seul, Emmanuel Macron supprime les ambassadeurs, le corps diplomatique tel qu'il existait depuis Napoléon. Et même au-delà, oui. Même avant, d'ailleurs. Ah bon ? Plus d'ambassadeurs, plus de représentants, plus de Quai d'Orsay ? Que va devenir le Quai d'Orsay, un musée ? On va en parler avec le grand reporter du Figaro, Renaud Girard. Nous allons effectivement aussi, évidemment, parler de ce qui se passe au-delà de la guerre russe-Ukraine, de la guerre économique. Cette guerre économique, on voit les Chinois, les Indiens, les Russes, le yuan, le rouble, la roupie, se divorcer lentement, mais peut-être sûrement du dollar, et peut-être aussi de l'euro. On n'en est pas là. Attention, attention. Et puis nous allons recevoir les auteurs d'un livre passionnant. Un livre sur le nouveau western d'aujourd'hui. Et vous savez ce que c'est le nouveau western d'aujourd'hui ? C'est GAFAM. GAFAM, ton univers impitoyable. Vous allez tout savoir sur les GAFAM.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et quand on parle diplomatie depuis des siècles, oui, la France, évidemment le corps diplomatique. Hein. La France était connue par ses ambassadeurs, quand la France était une puissance mondiale, une grande puissance mondiale, la première puissance mondiale. Et comment ne pas se rappeler de Talleyrand, le diable boiteux, qui quand on le retrouvait effectivement avec Fouché, on disait, comme disait Chateaubriand, le vice appuyé sur le crime. En attendant, ce vice a fait le tour de la planète et c'était un très beau vice. Tous ces diplomates, tout ça, alors c'est fini, sous prétexte que tout ça sans le renfermer, le... quant à soi, le entre-soi, eh ben on supprime, ça y est, terminé les diplomates, terminé les ambassadeurs, terminé cela, on les remplacera par qui ? Par le système des dépouilles à l'américaine ? On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour.
Il a des jardins pleins de réséda, monsieur le consul à Curitiba. Quand il veut sortir, il trouva de
part... Eh oui, une chanson de Patrice et Mario qui date au moins d'un demi-siècle et sinon plus... Monsieur le consul à Curitiba au Brésil, et oui, l'ambassade de France. Vous savez, on se rappelle, un peu partout, l'ambassade de France, c'était quelque chose. L'ambassadeur, le conseiller culturel, conseiller aux affaires étrangères, etc. Le Quai d'Orsay, l'école du Quai d'Orsay, l'ENA de la diplomatie française à travers le monde. Eh bien, c'est terminé, c'est terminé. Apparemment, voilà, par décret, Emmanuel Macron a décidé la suppression du corps diplomatique, en tout cas des ambassadeurs et des représentants. Bonjour Renaud Girard.
Bonjour.
Alors Renaud Girard, vous qui êtes grand reporter international au Figaro et depuis des décennies, vous qui avez connu un peu, même beaucoup, un certain nombre d'ambassades à travers le monde, moi aussi, on a pérégriné et puis tout d'un coup, ça y est, et je dois dire, et j'ai évidemment voudrais avoir votre avis, mais je voudrais vous faire état des réactions, et les réactions sont quand même très fortes. Ségolène Royal, comment une décision de cette nature est-elle possible sans vote au Parlement entre les deux tours d'une élection où seule la gestion des affaires courantes et le transition démocratique? Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur de France des États-Unis, qui dit « Le journal officiel publie la suppression du corps diplomatique. La France sera donc le seul grand pays occidental sans diplomate professionnel. Une histoire de plusieurs siècles s'achève ainsi. La porte est désormais ouverte aux nominations à l'américaine, le fameux spoil system. » Et beaucoup d'autres encore, voilà, Macron, Asselineau, s'acharne encore à détruire la France, etc. etc. Qu'en pensez-vous, Renaud Girard?
Alors, il faut dire que les ambassades continueront à fonctionner, il continuera à y avoir des ambassadeurs, etc. C'est le recrutement qui est changé. C'est ça. Effectivement, c'est une réforme fondamentale, curieusement prise entre les deux tours d'une élection, qui est ce décret qui supprime effectivement un recrutement spécialisé, donc un corps spécialisé, pour nos diplomates. Le recrutement par concours avait été introduit par un très grand ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Théophile Delcassé, qui était le père de l'alliance franco-anglaise, si vous voulez, qui nous a permis de ne pas perdre la guerre de 14. Delcassé, avant c'était un peu des aristocrates qui étaient ambassadeurs de France à droite à gauche, et là maintenant c'était recruté au mérite par concours, et avec aussi un concours, notamment un concours d'Orient pour aller au Japon, en Russie, en Chine, en Serbie, etc.
Mais il y avait une école,
Les langues, c'est très important. Et là maintenant, on remet tout dans une sorte de lot commun d'administrateurs de l'État, c'est-à-dire que c'est plus des énarques, parce qu'on a supprimé l'ENA aussi, sans doute pour faire plaisir aux gilets jaunes, enfin je n'ai pas du tout compris cette réforme, mais d'administrateurs de l'État. Mais moi je pense, comme Gérard Haraud, qu'on ne passe pas sans transition d'agent des finances à Montauban à conseiller politique à Téhéran. Je pense que c'est un métier, le métier de diplomate. Alors, il peut être ouvert à d'autres, à des gens qui ont fait d'autres carrières. Je ne vois pas qu'ils soient entièrement fermés. D'ailleurs, le conseil d'État est ouvert d'autres juristes, la Cour des comptes également, etc., pour les finances. Bon. Mais je pense qu'il faut avoir un corps spécialisé, parce que la négociation, ça ne s'improvise pas, André. C'est un métier, et moi, au lieu de faire cette réforme, moi j'aurais été Emmanuel Macron, j'aurais dit je n'enverrai plus d'ambassadeurs dans les pays, que ce soit en Iran, en Chine, en Russie, etc., qui ne parlent pas la langue du pays.
Voilà.
Alors si j'ai envie de nommer un ambassadeur en Russie qui ne parle pas le russe, ben je lui paye une formation d'un an, il va apprendre la civilisation russe, la culture russe, la langue russe, pour pouvoir au moins s'exprimer lorsqu'il arrive sur place. Non, je crois, et c'est quelque chose qui est totalement incompris à l'étranger. On ne comprend pas très bien les objectifs et les intérêts de cette réforme. Évidemment que nos partenaires, les grands pays, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les grands pays dans les relations internationales? C'est les pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, avec droit de veto de l'ONU. Eh bien, les Américains, les Britanniques, les Chinois et les Russes ont un corps diplomatique professionnel. Je ne vois pas du tout l'intérêt de cette réforme. Je ne comprends pas cette manie qu'on a en France, André, de casser systématiquement tous les trucs qui marchent. Vous voyez, par exemple, quand j'étais jeune, moi, j'apprenais la littérature dans le Lagarde et Michard. C'était parfait. Je ne sais pas pourquoi on l'a flingué. Il y avait avant, quand j'étais plus petit, on apprenait la grammaire et l'orthographe dans le Bled. Je ne sais pas pourquoi on l'a flingué. On apprenait l'histoire dans des livres formidables qui étaient le Malais Isaac, qui donnait du roman national et qu'on comprenait, qui des livres extraordinaires. Absolument. On a flingué ça. Je ne comprends pas cette manie française qui existe de détruire tout ce qui marche pas. J'espère qu'on va pas demain détruire. On a une arme qui marche très bien qui s'appelle la Légion étrangère. J'espère qu'on va pas la détruire. J'espère qu'on va pas détruire notre marine nationale.
Non mais Renaud, ce qui est grave d'abord effectivement dans cette décision prise en catimini en tout tout cas officialisant catimini entre deux tours, c'est vrai que là, Ségolène, elle n'a pas tort, c'est bizarre. Mais au-delà de ça, quand même, ce que vous dites, ce qui est fondamental, enfin, aujourd'hui, on sait, et vous êtes mieux placé que tout le monde, enfin, vous êtes aussi bien placé que tout le monde pour le savoir, c'est que si on ne connaît pas, on ne va pas envoyer un ambassadeur, quelqu'un qui ne connaît pas à fond la langue, mais aussi la culture, la civilisation, les bien modes sûr. De négociation, la mentalité du pays que l'on va, où on va aller. Et alors, ça veut dire qu'on fait une espèce de pot commun de toutes les administrations. C'est quoi est-ce que ce n'est pas quelque part, et au-delà de Macron, la porte ouverte à n'importe quel renvoi d'ascenseur, plaisir, sénérubard.
Alors, il y a un danger de spoil system qui, pour le moment, est évité par le décret, puisque ce sont les administrateurs de l'État. Il y a quand même un concours. Mais il y a l'abandon de cette spécialisation que je trouve regrettable. J'étais récemment dans le Golfe, dans un état du Golfe Persique, je connais très bien cette région, mais j'ai accepté, j'ai été dîner chez l'ambassadeur, et j'étais quand même il m'a appris beaucoup de choses, j'étais assez bluffé dans la manière de cet homme jeune de 45 ans était capable de me passer en revue tous les grands enjeux du pays et de la région. Il maîtrisait vraiment bien son sujet. C'était un homme qui avait de l'expérience, qui était un diplomate professionnel, qui se consacrait à ce métier. Moi j'étais et c'est pas la première fois, je suis assez bluffé par la qualité
des ambassadeurs que vous avez rencontrés,
de notre corps diplomatique. Alors bien sûr, il y a comme partout, il y a des arrogants et des nuls et des paresseux, mais il y en a partout. Mais moi, je suis plutôt impressionné par la qualité de nos diplomates. Il faut reconnaître que d'ailleurs, le concours d'entrée au Quai d'Orsay, soit le concours d'Orient, soit le concours général, soit les places qui étaient réservées à l'ENA, c'est très difficile. Il faut vraiment avoir un bon niveau, et je vous dis ça d'autant plus que j'étais membre du jury de relations internationales de l'État au dernier concours de l'ENA.
Non, c'est quand même tout ça, c'est vrai, Renaud Girard, c'est extrêmement bizarre. Quand on a des choses qui fonctionnent, vous l'avez dit pour d'autres domaines aussi, on s'évertue à les casser. Pourquoi ? La diplomatie française a toujours été considérée, enfin je crois, on peut dire qu'on a fait des erreurs, et Dieu sait, on a fait des bourdes, et c'est plus que ça. Enfin, en général, ça fonctionnait.
Mais on a cassé aussi le corps préfectoral, ça marchait très bien, le corps préfectoral. Et même, je vous avouerai que cette réforme, on avait les préfets qui même étaient qui dirigeaient, si vous voulez, même les départements et les dépenses des départements, avec quand même voté par un conseil général. Nous avons cassé tout ça dans une réforme de 82. On a recruté 1 million de fonctionnaires en plus. C'était la loi de décentralisation. Est-ce que aujourd'hui, André Berkoff, les départements sont mieux gérés qu'ils ne l'étaient dans les années 70? Et ben la réponse est ni mieux ni moins bien. Et donc on a considérablement augmenté les dépenses publiques en faisant un nouveau corps de fonctionnaires. Donc c'est une réforme qui n'a servi strictement à rien, la réforme de la décentralisation. Ouais. Et d'ailleurs, cette décentralisation n'est pas respectée par l'État français, parce que quand il y a un référendum décentralisé sur un aéroport à Nantes, eh bien il suffit qu'il y ait une minorité violente qui s'agite, et le pouvoir régalien, c'est-à-dire le président de la République, annule les résultats de ce référendum local.
Mais le pire, Renaud Girard, quand même, moi, ce qui me fait, enfin, je ne sais pas, qui me préoccupe, mais je ne suis pas le seul, c'est que on risque d'avoir encore plus d'amateurs. Comme vous disiez, c'était une école, le Quai d'Orsay, c'est une école, c'est un concours, c'est une expérience, c'est un apprentissage au vrai sens du terme. On le supprime pour donner quoi ?
Voilà, moi je ne suis pas du tout, si vous voulez, je ne suis pas du tout hostile. On a nommé, par exemple, récemment, l'ancien normalien spécialiste d'histoire, grand professeur, recteur de Paris, on l'a nommé ambassadeur à Vienne, c'est une très bonne... nomination, c'est voilà. Moi, je suis bien sûr qu'il faut pas entièrement fermer les corps, c'est évident. Peut-être qu'on pourrait l'ouvrir plus, le corps diplomatique. Je crois que effectivement, le corps des ministres plénipotentiaires n'était pas suffisamment ouvert. Je crois qu'on nommait seulement un sur 7 par an. On pourrait l'ouvrir autant que pour le Conseil d'État ou la Cour des comptes. Mais l'idée d'abandonner une spécialisation me semble folle. Je ne vois pas l'intérêt, les objectifs, et personne. je voyage beaucoup, vous le savez, oui. Personne dans le monde ne comprend cette réforme, André Berkoff.
Oui, c'est tout à fait étonnant, mais encore une fois, vous savez, c'est le problème, c'est que je ne dirais pas que le pire n'est pas toujours sûr, mais je dirais que quelquefois, on se demande vraiment comment les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, d'ailleurs de quelque bord qu'ils soient, comment prennent-ils leurs décisions.
Moi, je trouve qu'en plus, si vous voulez, je ne comprends pas, il y a quand même beaucoup de pain, Emmanuel Macron a quand même énormément de pain sur la planche,
enfin, oui, d'autres il a autre chose à faire.
Il y a quand même beaucoup de choses qui ne marchent pas en France. Pourquoi s'attaquer à quelque chose qui marche? Je ne comprends pas.
Voilà. Et moi, je vous dis, ça.
La diplomatie française, elle marche. Elle a toujours marché. C'est pas elle qui est fautive dans toutes nos grandes erreurs stratégiques. Elle a fait son boulot contre le nazisme. Elle a prévenu ses diplomates français avant la guerre professionnelle.
Elle a fait son boulot sur la guerre d'Irak. Il faut se rappeler aussi.
Elle a fait son boulot sur la guerre d'Irak. C'est un diplomate professionnel qui a prononcé un des discours les plus importants au Conseil de sécurité, Dominique de Villepin. Ben, ce Dominique de Villepin, c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien, parce que c'est un diplomate professionnel, les relations internationales. Il a montré beaucoup de sagesse, notamment lorsqu'il s'est exprimé sur le Mali également. Il a averti la France qu'elle allait s'embourber au Mali et les faits nous ont donné raison. Donc,
en tout cas,
je ne comprends pas. Non, c'est vraiment une réforme que je ne comprends pas. Bien sûr que les corps doivent être ouverts, bien sûr que
ce n'est pas la peine de casser ce qui marche.
Ou d'autres fonctionnaires, mais
ce n'est pas la peine de casser
la spécialisation, pas de nom.
Merci Renaud Girard, merci de vos éclaircissements.
Et on vous retrouve très souvent dans les colonnes du Figaro, et c'est pour ça que nos
tous
auditeurs
mardis,
vous connaissent absolument. Et aujourd'hui, vous parlez de la diplomatie à mener dans la péninsule arabique. Merci, et tous ceux qui veulent réagir, vous nous appelez comme tous les jours au 0826 300 300.
Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et ça continue encore et encore. Le premier producteur de pétrole et de gaz chinois se désengage du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni après avoir dû se retirer de la bourse de New York, conséquence de la guerre Russie, de l'invasion russe en Ukraine. Et ce n'est qu'un début, le combat continue plus fort que jamais. On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte.
Évidemment, vous avez reconnu Pink Floyd et son tube, on peut le dire, Money. Eh oui, l'argent, le nerf de la guerre, ce n'est pas par hasard qu'on dit cela. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, voilà, ce que je viens de vous dire quand même, le premier producteur de pétrole et de gaz chinois se retire de la bourse de New York parce que, on l'a dit aux États-Unis, on dit à la Chine, attention, si vous achetez encore du pétrole russe, sous sanction, vous allez voir ce que vous allez voir. Et encore une fois, ce n'est qu'un début. Qu'est-ce qui se passe? Anis Lagenève, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Anis, on est toujours content de vous recevoir. Vous êtes un ancien trader et vous suivez absolument toute cette guerre à côté de la guerre et qui est quand même, qui prend des proportions tout à fait, je ne dirais pas dantesques, mais très fortes. On a vu l'Arabie Saoudite vendre du pétrole à la Chine, peut-être en yuan. Qu'est-ce qui se passe avec la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique, tout cela, tous ces pays émergents? Qu'est-ce qui se passe effectivement avec la Banque Centrale Européenne par rapport à ces renflouements divers et variés? Alors on voudrait comprendre, est-ce que c'est l'amorce, Anis Lagenève, ce que vous voyez, d'une guerre à la fois monétaire et économique entre l'Occident tel qu'on le connaissait avec le dollar roi et l'euro qui suivait comme le petit cheval blanc et les autres qui sont en train de basculer où on n'est pas encore là.
Cette histoire de guerre monétaire, c'est exactement ce qui se passe derrière la guerre qui se passe en Ukraine en fait.
Ouais.
Ce qu'on est en train de vivre, c'est une guerre à la fois économique et monétaire entre deux blocs. D'un côté, on a le bloc, comme vous le dites, de la zone dollar et de la zone euro aussi qui suit. Donc ça, c'est plutôt le bloc occidental. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on a le bloc justement des anciens pays émergents. mais qui ont grandi aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle plutôt les BRIC. Et dans les BRIC, il y a la Chine, la Russie, il y a l'Inde, il y a peut-être le Brésil, il y a l'Iran qui veut s'allier à ces pays-là.
Ouais.
Et en fait, justement, toute cette guerre monétaire est en train de se concentrer militairement en Ukraine. C'est-à-dire que derrière la guerre en Ukraine, il y a une guerre pour la monnaie et pour l'énergie. C'est-à-dire, c'est une guerre énergétique à la fois, non pas seulement monétaire. Parce que ce qui donne de la valeur à la monnaie, c'est aussi l'énergie. Et on l'a vu dernièrement.
Les matières premières, en général. Enfin,
en général. Ouais. Ben, dernièrement, on a vu que quand il y a eu les premières sanctions contre la Russie, le rouble a tanké. C'est-à-dire que juste avant l'invasion en Ukraine, on pouvait échanger avec un dollar, on pouvait avoir 80 roubles.
Oui.
Derrière, dès qu'il y a eu les sanctions, avec justement le bannissement de SWIFT de plusieurs banques russes, etc., et le bannissement de toute activité en Russie de Visa et de Mastercard, ce qui s'est passé, c'est que le rouble a tanké et il fallait pour un dollar, on pouvait avoir 130 roubles. C'est-à-dire que quelqu'un qui voulait…
De 80 à 130 roubles pour un dollar.
C'est énorme, en quelques semaines. Et c'était une vraie punition à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pour que les gens comprennent? C'est que les Russes, qui avaient des roubles dans leur compte en banque, en réserve, en épargne, en fait, ont perdu un pouvoir d'achat, énorme, quasiment de l'ordre de 40%.
C'était Bruno Le Maire qui disait à ce moment-là, nous allons mettre à zéro l'économie russe. C'était ça. Mais ça a changé depuis.
Exactement, exactement. Voilà. Parce que Poutine, je pense qu'il est entouré de joueurs d'échecs.
Ouais.
Et en fait, ils avaient peut-être un coup d'avance sur nous. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait exactement ce qui a donné le pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir exorbitant au dollar. C'est un pouvoir hégémonique. Et c'est quoi ce pouvoir? C'est de pouvoir faire en sorte que le dollar, au départ, avec les accords de Bretton Woods, soit adossé à l'or. Mais depuis 71, on est dans la continuité. Même si les accords de Bretton Woods officiellement ont été arrêtés par Nixon, on est quand même dans la continuité. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle le pétrodollar. C'est-à-dire que le dollar n'est plus adossé à l'or, mais il est adossé au pétrole saoudien et de l'OPEP dans un premier temps, puis au pétrole, ce qu'on appelle le pétrole de schiste ou le gaz de schiste aussi, tout ce qui est américain. Et c'est pour ça que justement les États-Unis ont un besoin d'avoir l'OTAN et d'avoir justement, pour maintenir cette hégémonie, justement d'avoir, de punir tous ceux qui remettraient en cause ce pouvoir exorbitant. On l'a connu avec Saddam Hussein qui a essayé de dédollariser son économie, qui a vendu toutes ses réserves et qui a décidé d'échanger son pétrole en euros. Et ça s'est passé entre 2000 et 2003. Mais le jour où il a décidé d'échanger son pétrole en euros, très rapidement, il y a eu une guerre en 2003, en mars 2003, qui a fait en sorte que il soit puni pour cette décision.
Mais alors, Alice Lajdev, aujourd'hui, on est toujours dans l'hégémonie absolue du dollar ou ça commence à se fissurer apparemment?
Ça commence à se fissurer parce que, en fait, petit à petit, les petits pays émergents, donc il y en a qui ont le plus de milliards comme la Chine ou l'Inde, qui étaient petits à l'époque, qui ont grandi maintenant, en fait, commencent à se rebeller. Et un des premiers pays à s'être rebellé, c'est la Russie, dès 2014. C'est-à-dire que dès que, en 2014, quand ils ont envahi la Crimée, ils ont été sanctionnés par les États-Unis grâce à un système, ce qu'on appelle, c'est une messagerie bancaire en gros. C'est ce qui permet de compenser toutes les transactions financières. C'est le système SWIFT. Au départ, c'était une société belge, mais maintenant il y a une mainmise américaine dessus. En fait, il a voulu ce qu'on appelle dédollariser son économie. C'est-à-dire que Poutine a décidé de se débarrasser de ces dollars et de petit à petit essayer de faire des alliances, que ce soit avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Inde, etc., pour échanger ces matières premières contre justement des devises qui est autre que le dollar.
Autre devise, oui, absolument. Mais alors, on sait ce qui s'est passé ensuite, il y a eu le Donbass 2014, enfin toutes les révoltes, etc., l'Ukraine aujourd'hui. Alors, est-ce que, effectivement, que veut dire, parce que moi, ça m'a frappé, cela, Annie, que ce premier producteur de pétrole et de gaz chinois qui se désengage, qui a dû se retirer de la bourse de New York et qui redéploie son portefeuille vers l'Amérique du Sud et l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Est-ce que c'est fait que l'Arabie Saoudite accepterait, je dis au conditionnel, de vendre son pétrole à la Chine en yuan? Est-ce que tout ça est en train de présager de quelque chose qui va se généraliser ou qui risque, ou qu'il faut qu'il risque pour certains, ou espoir pour les autres de se généraliser?
Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que les États-Unis abusent de justement du fait que le dollar soit la réserve mondiale des banques centrales, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment une chaque. En gros, il y a à peu près une quinzaine d'années, en moyenne, 70% des réserves des banques centrales étaient en dollars. Et elles sont en train de baisser. En ce moment, c'est plutôt 59%. Donc ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui se rebelle, les États-Unis abusent de leur hégémonie et sanctionnent les sociétés. Mmh. Et la peur des Chinois, c'est que ça soit les prochains, en fait, sur la liste.
D'accord.
Et donc ça, c'est un peu la peur des Chinois. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent justement sortir leur, pour parler un peu normalement, on va dire, ils veulent sortir leur bille des pays qui peuvent les sanctionner, c'est-à-dire le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, pour aller se redéployer vers l'Amérique du Sud et l'Afrique. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les pays comme l'Arabie Saoudite, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce justement à un pays comme l'Arabie Saoudite en 73 et l'OPEP en 75 que le dollar est devenu fort et qui a pu rebondir. L'Arabie Saoudite, maintenant, qui voit que les États-Unis s'affaiblissent un peu avec ce front de l'Est, qui est celui de le front sino-russe avec l'Inde et l'Iran derrière, en fait, en profite. Mais je pense que c'est plus un levier de chantage.
D'accord.
Pour qu'on leur donne les mains libres par rapport à ce qui se passe au Yémen. Je pense pas qu'ils passeront le Rubicon. Donc et tout à l'heure, j'ai oublié de dire comment le rouble, on a dit qu'il est passé à 130. Je suis parti un peu. il est revenu à 80. Il est revenu au niveau d'avant.
Il est revenu au niveau d'avant la guerre d'Ukraine. Enfin, là, avant.
Exactement. Exactement. Et comment il a fait ça, le petit roublard? Il a justement dit que on allait échanger son pétrole et son gaz en rouble seulement.
Ah oui, oui, donc, vendait son pétrole et son gaz qu'en rouble. Oui, absolument.
Voilà, exactement. Il a utilisé la tactique qu'utilisent les États-Unis, c'est-à-dire obliger le monde entier à échanger toutes les matières premières en dollars.
Et vous avez vu que, comme d'ailleurs c'est intéressant, je ne sais pas si l'Allemagne va payer en rouble ou en continuant en dollars, mais l'Allemagne a proposé, alors l'Allemagne, cœur de l'Europe, a donné une fin de non-recevoir à ceux qui lui disaient qu'il faut qu'ils arrêtent d'acheter du pétrole russe, quoi. Il a dit, attendez, nous, on n'a pas les moyens, nous, on continue.
Alors, en fait, l'Allemagne, c'est un peu le canard boiteux ou le futur Judas de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'elle dépend à 70% du gaz russe. Et justement, en fait, avant même qu'il y ait la guerre d'Ukraine, maintenant c'est l'épicentre de la guerre, l'Ukraine, mais juste avant, c'était Nord Stream.
Ah oui, le fameux le gazoduc, absolument.
C'est-à-dire que donc qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont tout fait pour que justement
ça ne fonctionne pas.
Et en fait, ils ont réussi à la fin parce que en mars 2022, donc il y a pas très longtemps, la société a fait faillite. Et ça, c'est 55 milliards de mètres cubes par an. Ce qui est gigantesque. Pourquoi et comment ont fait les États-Unis? Ils ont été jusqu'à sanctionner non pas des sociétés russes ou chinoises, mais des sociétés européennes.
Oui, qui participaient à ce gazoduc, absolument.
Exactement. Ouais. Et l'Allemagne ne peut pas faire autrement. Elle est obligée, justement, de continuer. Bah, l'Autriche a un peu laissé tomber cette directive européenne.
Et Anis Lajnef, juste un mot. Le paradoxe va jusqu'à actuellement. L'Allemagne se fournit de gaz russe par un gazoduc qui passe à travers l'Ukraine. Donc l'Ukraine continue, effectivement, à toucher des émoluments et à laisser passer le gaz russe.
Alors, le gaz allemand, c'est plutôt Nord Stream, c'est parce qu'il y a Nord Stream 1 et Nord Stream 2.
Ah oui, il y a les deux.
À l'avoir de Nord Stream. Mais c'est ça, en fait, que reprochent un peu les Russes ou les Chinois aux États-Unis, c'est que quand il y a des accords monétaires, en fait, c'est un contrat de confiance qui se fait entre deux parties et c'est un contrat économique. Mmh. Et rien ne peut faire en sorte que la guerre puisse remettre en question ce contrat.
C'est
des gens de parole, etc. Mmh. Et là, ce qui se passe avec, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec l'Ukraine, le fait que le gaz passe par l'Ukraine, pour l'autre partie, pour l'Europe du Sud et l'Europe de l'Est.
Ouais.
En fait, ce qui est un peu la Pologne, mais beaucoup par l'Ukraine, les Ukrainiens touchent déjà se servent en gaz et ouais. touchent justement une redevance.
Ouais.
Et malgré la guerre, malgré ouais. le Donbass, malgré depuis tout ce qui se passe depuis 2014, la Russie justement continue à payer cette redevance. C'est-à-dire que quand Zelensky va dans tous les parlements européens
oui,
et du monde et demande, nous demande de sanctionner le gaz russe, lui-même ne le sanctionne pas. Ouais. Lui-même continue de toucher une redevance. Et c'est oui, pour ça en fait que l'Ukraine est un peu l'épicentre parce que beaucoup du gaz russe passe par l'Ukraine et c'est un levier contre la Russie.
Bien sûr.
Aimerait bien ce.
Et alors, Anis, dernière question, et on va en reparler avec vous, bien sûr, parce que tout ça n'est pas fini. Est-ce que ce contrat de confiance dont vous parlez pour la monnaie, vous dites, il y a des guerres, etc., mais il doit y avoir un accord, et si cet accord est rompu parce qu'il y a une guerre, ça ne va plus. Est-ce que vous avez l'impression que pour tous ces pays-là, y compris les pays émergents, le contrat de confiance avec les États-Unis ou autres est en train de. Enfin, non pas n'existe plus, mais est en train d'être sérieusement ébréché.
Largement, en fait. Alors là, on est dans une période de crise, et quand il y a une période de crise, le dollar se valorise un peu.
Ouais.
Mais ça, c'est vraiment quelque chose à court terme. Mais à long terme, il est certain que la dédollarisation du monde s'est accélérée avec cette guerre en Ukraine, s'est accélérée ouais. avec les sanctions contre la Russie en 2014. Là, c'est accéléré encore plus. Mmh. Et je pense qu'on est en train justement de voir la fin de l'hégémonie du dollar et peut-être la mise en place d'un nouvel ordre mondial alternatif. C'est-à-dire qu'on risque de retourner dans cette guerre froide avec une bipolarisation du monde, avec d'un côté le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Alors, je vais dire aux gens, parce que dès qu'on parle de nouvel ordre mondial, ça fait un peu complotiste, etc. Ouais. C'est, on date du 17 mars, c'est The Economist, qui est l'hebdomadaire principal sur l'économie ici au UK, qui est justement attitré sur cette nouvel ordre mondial alternatif.
Ouais. En tout cas, c'est très intéressant, c'est très éclaircissant, c'est vrai. Ça apporte beaucoup de questions et merci Anis Lajnef, on continuera.
Merci à vous.
Et c'est donc
merci.
Que vous ayez utilisé la formule roublard, puisque c'est une formule d'André Berkoff lui-même qui parlait à l'époque d'une alliance potentielle du rouble et du dollar au moment de la présidence Trump. On se retrouve dans un instant pour les perles.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Je parle très très lentement, auditeurs de Sud Radio, parce qu'il faut que je vous avertisse. Il y a des gens qui sont menacés de mort, oui, des gens qu'on aime beaucoup, et elles sont menacées de mort. Elles ont parlé, alors je ne pouvais pas ne pas lancer un SOS et un avertissement. Écoutez.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour.
Reconnu le bon, la brute, le truand Ennio Morricone, hein, la vengeance de 5 heures de l'après-midi. Eh bien écoutez, il y a deux personnes, deux femmes, qui craignent pour leur vie si le Rassemblement National et Marine Le Pen arrivent au pouvoir. Oui, oui, et deux personnes et non de moindre. Voici ce qu'a écrit Alice Coffin dans une interview à Libération. Si l'extrême droite gagne, moi comme tant d'autres militants, .e.s, parce qu'évidemment c'est écrit en écriture inclusive, féministe ou antifa ou antiraciste, donc pas seulement les militants féministes, les antifas, les antiracistes, nous sommes menacés très directement de mort, que les électrices et électeurs aient bien cela en tête le 24 avril. Ça veut dire que dans la tête donc d'Alice Coffin et dans ses propos, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, c'est tout de suite les camps d'extermination, les fusillades, etc. C'est-à-dire, ce n'est qu'un début. Voilà, c'est intéressant, on en est aujourd'hui, hein, après les génétiquement racistes, voilà. Et Sandrine Rousseau. Alors, Sandrine Rousseau également, comme vous le savez, grande écologie, écolo-féministe, etc. Et voici ce qu'elle dit. Même chose, exactement, elles ont les mêmes paroles. Donc, Alice Coffin, il y a les féministes, les antifas ou antiracistes, voilà, menacées très directement de mort. Et Sandrine Rousseau, Tu es LGBTQIA, excusez-moi, j'arrive pas à suivre parce qu'il y a une lettre à chaque fois qui se ajoute. Tu es non-blanc, tu es musulman, tu es juif, tu es femme, tu es handicapé, tu es étudiant, tu es chômeur, tu es étranger et syndiqué. Toute cette population, dit Sandrine Rousseau, le droit de vivre librement, manifester, se réunir peut disparaître et vite. Certes, Macron est de droite et il y a un troisième tour, mais en attendant, on garde la démocratie et la République, ça veut dire évidemment voter Macron. Donc, si je comprends bien, il y a, si effectivement, dans la tête et dans les paroles de Sandrine Rousseau et d'Alice Coffin, si Marine Le Pen, par hasard, arrive au pouvoir, on ne vit plus librement, on ne peut plus manifester, on ne peut plus se réunir. Et attention, on est en danger de mort. Et tous ces gens-là, hein, tout ce qu'elle a cité, sont en danger de mort. Je rappelle, LGBTQIA, non-blanc, musulman, juif, femme, handicapé, étudiant, chômeur, étranger, syndiqué. Alors écoutez, il n'y a qu'une chose à faire, c'est clair, c'est de prendre le maquis. Tout de suite, il faut prendre le maquis. Il faut tout de suite qu'on se réfugie, prendre le bateau, prendre le maquis, partir. Ben partir en Corée du Nord, ou en Arabie Saoudite, ou dans les pays démocratiques. Non, mais je veux dire, quitter la France, on ne peut pas. C'est pas possible, on ne laissera pas faire, je vous assure. Alice Coffin, Sandrine Rousseau, nous serons là pour vous protéger. Nous monterons la garde.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État en Afrique. Trop de coups d'État. Ça suffit comme ça.
Alpha Blondie, c'est très joli. Il a raison. Trop de coups d'État en Afrique, mais trop de coups d'État et de peur de coups d'État. Même chose aussi, même chose. Alors voilà, par exemple, on parle du référendum. Vous savez, beaucoup de gens, d'ailleurs de gauche, de droite et de partout, demandent effectivement que l'on revienne au référendum. Et je rappellerai à tous, aux auditeurs du Sud Radio, à tous, que l'article 3 de la Constitution de la Ve République, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit très précisément « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Par ses représentants d'un côté, c'est pour ça qu'on fait des élections, et par la voie du référendum qu'on a oublié depuis 2005. Hein. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution, etc. Et voilà-t-il pas que quand on parle effectivement de cela, voilà ce qu'on entend quand, par exemple, Marine Le Pen est face à Apolline de Malherbe sur BFM. Écoutez.
Que vous voulez faire, et vous le savez, ouais. Il y a un certain nombre de constitutionnalistes qui depuis plusieurs jours sont sur tous les plateaux pour dire que ce serait même, l'expression a été lancée, une forme de coup d'État constitutionnel.
Mais enfin, ce propos n'est pas sérieux, puisque ce que je propose, c'est ce qu'a fait le général de Gaulle en 62. Ça voudrait dire que nous vivons aujourd'hui sous un coup d'État. C'est-à-dire que l'élection présidentielle que nous sommes en train d'organiser, là, qui a eu lieu dimanche dernier et qui aura lieu le 24 avril, est illégale ?
Oui, en tout cas, on peut se poser effectivement la question. C'est vrai que c'est un référendum qui a institué l'élection présidentielle. Parce que de Gaulle avait une espèce de défaut terrible, c'est qu'il consultait le peuple par référendum. Et oui, c'est incroyable. Incroyable, ce général de Gaulle qui s'adressait encore au peuple et qui, je vous le rappelle, en 69 est parti parce qu'il avait fait un référendum sur le Sénat et les régions. Il a été mis en une minorité. Il est parti dans l'heure qui suit. Vous imaginez un chef d'État qui part parce que le référendum n'était pas en sa faveur. On se rappelle quand même qu'en 2005, 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est parti ? Bon. Alors, on a demandé quand même à Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur RMC. Mais pourquoi pas de référendum ? Pourquoi personne ne pense plus au référendum ? Et voici ce qu'il a répondu sur RMC le 13 avril.
Une proportionnelle intégrale, sur le fond, franchement, est-ce que ça permettrait au pays, dans ce moment de grande division, d'être gouvernable ?
Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait davantage de pluralité à l'Assemblée nationale.
Mais si vous le vouliez, vous auriez pu le faire.
Non, on voulait le faire et on n'a pas pu le faire. C'est ce que je vous dis.
Mais vous pourrez le faire cette fois-ci.
Si on arrive, encore une fois, à trouver un consensus. Tout ça, pourquoi ? C'est pas moderniser pour moderniser. C'est moderniser, encore une fois, pour être capable de recueillir davantage la parole des Français, qui soit mieux représentée dans nos institutions, qui puisse avoir davantage voix au chapitre dans les décisions qui sont prises.
Oui, voilà, mais on n'a pas eu le temps. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout le monde veut consulter le peuple. Tout le monde veut la proportionnalité. Tout le monde veut un meilleur équilibre. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut du temps pour ça. Et oui, en attendant, on ne va pas dissoudre le peuple. Mais, allez, En attendant, ben votez.
En parlant de référendum, un sujet qui passionne les Français, les GAFAM, on en parle tout de suite jusqu'à 14h.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états, le face-à-face.
GAFAM,
ton univers impitoyable.
GAFAM,
glorifie la loi du plus fort.
Et oui, et oui, et oui, grâce à nos grands chanteurs Thibaut Sadler et Augustin Moriot, et surtout Thibaut Sadler, dont ont entendu la voix divine, eh bien voilà, c'est du GAFAM, et dont on va parler avec un livre tout à fait passionnant, Le Nouveau Western. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le Western? Ça a tout à voir avec Western, les géants du web. Et Olivier Bomsel, professeur d'économie à l'École des Mines, avec Rémi Devaux, a écrit ce livre pour raconter un peu ces GAFAM, qu'on utilise tous. Hein. GAFAM, je rappelle, Google, Amazon, Facebook, évidemment Microsoft, et puis d'autres, si on voulait en ajouter. Mais en fait, c'est devenu, je dirais, beaucoup plus proche de nous que la Tour Eiffel, ou presque. Enfin, ils sont là, ils nous occupent. Alors, Olivier Bomsel, ce que je voudrais d'abord... Peut-être qu'on explique à nos auditeurs et au public qu'est-ce que ça veut dire, ces plateformes qui hébergent, et surtout parce que vous posez d'emblée dans votre livre la question de la responsabilité. Et on a l'impression qu'il y a une grande différence entre ceux qui sont responsables, les éditeurs responsables, que ce soit la presse, la radio, la télévision, et je dirais les plateformes qui ont beaucoup moins de responsabilités. Quel est le clivage là ?
Quand on a lancé la conquête du cyberespace dans les années 90, à partir de 96 aux États-Unis, où vraiment la loi d'encadrement du cyberespace a été élaborée, on ne savait pas trop à quoi ça allait servir et quels allaient être finalement les usages proposés aux consommateurs. Mais on avait envie de donner beaucoup d'incitations aux entreprises pour s'installer sur le web. Et parmi les incitations qu'on leur a données, on a voulu les exempter de responsabilité quant à l'usage que faisaient les consommateurs de leurs services.
D'accord.
Et on a mis en place un statut d'hébergeur, qui est un statut dérogatoire, qui exempte les plateformes qui distribuent des services en ligne de responsabilité quant aux dommages que pourraient causer leurs utilisateurs.
Si je comprends bien ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables du contenu qu'ils abritent.
Exactement.
C'est ça.
Exactement, c'est-à-dire qu'une plateforme qui a vocation à faire du commerce, comme était Amazon ou eBay à leur début, s'ils distribuent des contrefaçons, ils ne sont pas responsables. Ce sont les utilisateurs qui en sont responsables.
Si les produits manufacturés ne donnent pas satisfaction, ils ne sont responsables en rien.
Absolument. Et non seulement s'ils ne donnent pas satisfaction, mais même s'ils contrefont la propriété intellectuelle, s'ils contrefont des marques, s'ils les copient, s'ils les abîment, ils ne sont pas responsables vis-à-vis des marques. Ils ne peuvent l'être éventuellement que si les marques les avertissent et qu'ils tardent trop à retirer les produits contrefaits de leur service.
D'accord,
mais
d'accord.
En gros, ce statut dérogatoire cette immunité, comme on dirait dans le monde politique des plateformes, a eu pour premier effet d'encourager très fortement le piratage de la musique et de l'audiovisuel, a été un facteur d'attraction très fort des consommateurs vers ces services.
D'accord.
Et pendant très longtemps, les ayants droit du copyright, les majors de la musique par exemple, ont essayé de porter plainte contre les plateformes qui, ont affiché, coufouré comme au mille bornes, la carte « Statut d'hébergeur ». Je ne suis pas responsable de...
Et ça a duré longtemps, ça, ce statut?
Mais ça dure encore.
Ça dure encore.
Mais bien sûr. Ouais. Et donc, c'est le statut qui prévaut pour des plateformes qui, initialement, étaient des plateformes de commerce ou d'échange privé, et qui, avec le développement du haut débit et des usages d'Internet, sont devenus des outils éditoriaux.
C'est ça. Par exemple, on peut dire que Google, Amazon, Facebook, Twitter, etc., rentrent là-dedans?
Bien sûr, ce sont des éditeurs en réalité.
Oui, c'est ça.
Dès que vous publiez un tweet, si ce tweet n'est pas une correspondance privée entre vous et un groupe d'amis, par exemple, mais dès que vous lâchez dans un fil public, ça devient un acte éditorial, si vous voulez, une publication. D'accord.
Mais le contenu, donc, Twitter ou autre, n'est pas responsable.
N'est absolument pas responsable. Ça. Donc, on a créé des médias d'exception, si vous voulez,
d'accord,
qui dérogent au statut centenaire ou multicentenaire de l'édition, qui prévoit que, alors, dans l'ancien régime, l'éditeur a un privilège qui lui est consenti par le roi.
Oui.
Après vérification de la librairie royale ou de la censure. Mais ensuite, à partir du moment où on progresse un peu dans les institutions démocratiques et surtout dans le droit de la responsabilité, l'éditeur devient civilement responsable. Donc, si dans votre émission, je passe un appel au crime...
Nous sommes responsables.
Vous êtes responsable, vous allez être mis en demeure par le CSA, même s'il y a certaines règles concernant le fonctionnement courant de la démocratie qui ne sont pas strictement respectées dans votre, sur votre antenne. Vous êtes rappelé à l'ordre par une autorité. Les hébergeurs ne sont soumis à rien.
Mais pourtant, alors expliquez-moi comment ces hébergeurs, pour ne parler que de Twitter, disent, et ça se passe très souvent, on a souvent des appels comme ça, disent, vous n'êtes pas conforme aux règles de Twitter, donc on censure, on supprime. Et d'ailleurs, le plus bel exemple, c'est Donald Trump, qui est encore président des États-Unis, a été radié de Twitter. Et je crois de Facebook aussi. Donc, ils exercent eux-mêmes un droit de contrôle.
Bien évidemment, puisque à partir du moment où vous vous inscrivez comme utilisateur de leur service, on vous demande d'accepter le contrat qui vous lie à ce prestataire en un clic. Donc, vous acceptez leur clause, et dans leur clause, il y a numéro un, qui sont propriétaires de tout ce que vous échangez, de tout le contenu que vous échangez sur leur réseau, et numéro 2, qu'ils appliquent les règles de censure et de modération qui leur conviennent.
C'est eux qui décident.
Et selon des règles dont ils n'ont absolument pas à rendre compte.
Ah, c'est ça.
Exactement. Mais que vous acceptez en utilisant leur service.
C'est ça. Absolument. Et comme il y a une situation, et alors j'en arrive là, comme il y a une situation de quasi-monopole, vous parlez beaucoup, beaucoup de cela dans votre livre, mais alors revenons à la chose vraiment intéressante, comment, et vous racontez ce fonctionnement, et essayons de le raconter, évidemment il faudrait des heures, mais comment en 20 ans, 25 ans, regardez c'est 96 que ça a vraiment commencé à bouger, comment il y a eu cet extraordinaire, et d'ailleurs... pour le meilleur et pour le moins bon, peut-être, mais il y a eu aussi du meilleur, bien sûr, il y a du meilleur. Cet extraordinaire, je dirais, est incontournable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se passer d'eux, de tous ces GAFA, et comment ils sont arrivés par ce mouvement d'attraction, ce lobbying, je dirais, numérique, cette attraction dans tous les domaines, comment ils ont fait ça?
Alors, il y a deux phénomènes qui sont très différents. Il y a d'un côté ce dont on vient de parler, c'est-à-dire l'exemption, l'immunité.
Oui.
Bon, mais ce n'est pas en lien direct avec la question que vous posez. Non, et il y a un autre point qui est l'effet de monopole et une fois que le monopole est acquis, la possibilité de s'étendre sur d'autres marchés que celui du monopole et de faire concurrence à ses clients jusqu'à les faire disparaître du marché. Ça, alors, c'est deux phénomènes différents.
C'est différent. Alors,
Et c'est sur le second donc, que vous m'interrogez.
Absolument. On va en parler tout de suite après une petite pause. Et c'est justement comment, non seulement à partir de la rampe de lancement du monopole, on arrive à acquérir tout le reste, enfin, et dans un mouvement tout à fait extraordinaire. On en parle tout de suite, et c'est passionnant, après cette petite pause.
Et il vous est forcément arrivé d'utiliser ces GAFAM, donc vous nous appelez au 0826 300 300, quelle que soit la question que vous voulez poser.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
GAFAM.
Ton univers impitoyable.
Et oui, on décortique cet univers impitoyable avec Olivier Bomsel, professeur d'économie à l'école des mines, co-auteur avec Rémi Devaux du très passionnant Nouveau Western qui peut refréner les géants du web. C'est paru aux éditions du Cherche Midi. Olivier Bomsel, on l'a parlé effectivement de l'irresponsabilité, en tout cas de l'immunité, d'une certaine immunité numérique qu'ont acquis effectivement les GAFAM par la loi et qu'ils utilisent encore avec beaucoup de bonheur à leur profit. Mais justement, alors, je voudrais parler de quoi on a commencé de l'aborder cela. Comment effectivement ces GAFAM, avec ce monopole, on sont allés encore plus loin, ont brisé toutes les frontières, en tout cas pas toutes, mais un certain nombre, et sont devenus ces géants absolus mondiaux que l'on connaît aujourd'hui. Comment ça s'est passé, le fonctionnement, quoi ?
Le fonctionnement, il est assez proche de ce qui s'est passé dans la phase de première industrialisation des États-Unis au moment de la conquête de l'Ouest.
Ah oui, carrément. Le Western.
D'où le Western, exactement. Ouais. Ouais. Où, dans le développement de l'industrie lourde, des chemins de fer, du pétrole, de la sidérurgie, et puis des commodités agricoles, il y avait de très grosses économies d'échelle. En gros, une fois que vous avez construit un rail de chemin de fer, que vous avez des locomotives et des wagons, plus les wagons sont remplis, moins le coût du kilomètre est cher, si vous voulez.
Bien sûr.
Et donc, on a vu apparaître, de cette façon, des trusts, des grands monopoles, dont le monopole des chemins de fer de J.P. Morgan, par exemple, mais aussi celui du pétrole de Rockefeller.
Oui.
Et ces monopoles sont très présents dans la culture industrielle américaine et ont conduit à l'émergence d'une institution très spécifiquement américaine qu'on appelle l'antitrust, qui s'est mise en place...
La fameuse loi antitrust.
Qui s'est mise en place à la fin du 19e siècle.
Oui.
Et qui a été appliqué dans la réalité pour démanteler les trusts. Je dis ça parce que ça va être utile dans la suite. Mm-hmm. À partir de 1905-1910, en gros. Et jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux années Reagan, pratiquement. Et donc, dans les années 90, les Américains, après la guerre du Vietnam, après la guerre d'Irak,
d'Irak, oui.
Se rendent compte que leur poids géopolitique est plus aussi fort qu'il n'était. Tout d'un coup, le cyberespace, Internet, apparaît comme une nouvelle frontière et un nouvel espace à conquérir.
La conquête de l'Ouest cyber.
Exactement. Ouais. Et donc, ils vont proposer des règles d'encadrement de ce nouvel espace qui soit très favorable à l'obtention d'économies d'échelle et surtout d'un effet de taille très spécifique à toutes les activités de télécom qu'on appelle les effets de réseau. Mmh. En gros, les économies d'échelle, c'est plus votre usine est grosse, moins le produit coûte à fabriquer.
Ouais.
Donc, d'accord. Plus c'est gros, moins c'est cher.
Plus vous pouvez faire des produits,
voilà.
Plus, voilà.
plus c'est gros, moins c'est cher. Dans les télécoms, vous avez un autre phénomène, un autre effet de taille qui est extrêmement important, qui est ce qu'on appelle l'effet de réseau, qui est que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de personnes raccordées au téléphone, et plus le téléphone est utile.
Bien sûr.
Plus il y a de...
Donc il y a plus de gens sur Facebook, plus il y a des gens sur Twitter ou sur Instagram, etc. Ouais.
Plus ces applications sont utiles. Et donc ce qu'ont tout de suite compris les économistes et les ingénieurs des années 90, c'est que grâce au progrès de l'électronique, à ce qu'on appelle la loi de Moore, qui permet de diviser par deux, disons, le prix d'un microprocesseur tous les 18 mois, y aurait des très fortes économies d'échelle, et grâce aux effets de communication, il y aurait des très forts effets de réseau.
D'accord.
Et donc, c'est la combinaison de ces deux effets qui a permis à Google de tuer tous ses concurrents, entre 1900, très rapidement.
Entre,
ils sont entrés en bourse seulement en 2004, je crois, ou 2005, et la boîte existait quand même depuis 1997. Mm-hmm. Et il y avait d'autres moteurs de recherche, il y avait Yahoo, dont vous me parliez tout à l'heure, qui étaient sur des modèles économiques différents. Google, ils ont trouvé un modèle économique dans lequel la régie publicitaire qui était liée à la requête tapée, au mot tapé, ne modifiait pas le résultat de recherche. Quand vous tapiez quelque chose sur Yahoo, c'était les pages correspondant à l'annonceur qui avait acheté votre mot, qui apparaissaient les premières. Google, ils ont réussi, c'était techniquement assez malin, et à séparer les deux choses, et donc ils ont pu arriver avec une page blanche et faire toute la topographie, si vous voulez, du
donc,
web.
Ils ont conquis quand même un marché énorme.
Et donc, en étant le moteur de recherche le moins biaisant, si vous voulez, ils ont séduit d'abord les publics d'étudiants, d'université, etc. Et de proche en proche, tous les nouveaux utilisateurs du web, avec ce phénomène absolument extravagant, qui est que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'incitation à créer des nouvelles pages sur le web, plus il y a de nouvelles pages sur le web, plus il y a de demandes pour aller les chercher, etc.
C'est exponentiel,
Exactement. Et plus... Et plus il y a de demandes, plus il y a d'annonceurs qui payent pour les mots-clés correspondants.
Alors Olivier Bomsel, vous dites, c'est très intéressant, parce que vous dites Google, ça, c'est l'empire de la recherche en ligne, hein, c'est, on le sait. Amazon, c'est le e-commerce, on en parlera aussi avec les auditeurs de Sud Radio. Et vous avez aussi... Facebook, c'est les réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est les trois principaux. Il y a Microsoft, bien sûr, mais c'est autre chose.
Si on prend une métaphore, si vous voulez, sur une métaphore biblique sur le cyberespace, le premier jour, on fait la géographie du cyberespace, la topographie, et là, c'est Google qui est capable de nommer et d'aller, de localiser absolument tous les endroits. Le deuxième, vous faites les transactions, les échanges entre consommateurs, producteurs et consommateurs. Et le troisième jour, il faut créer la personne, si vous voulez. Parce que tout le monde, sans ça, n'est qu'un numéro.
Mais oui.
Et c'est là que Facebook amène une innovation formidable, qui est le standard de l'identité en ligne. Et à partir du moment où vous créez cette identité en ligne, vous pouvez créer des groupes sociaux et vous fabriquez la société du web, le livre des visages, Facebook, qui est l'outil de socialisation en ligne par excellence.
Très intéressant. Dieu a créé le monde en 6 jours et là, il a créé Zuckerberg à la fin. Je ne sais pas, on verra le résultat final. En tout cas, c'est passionnant. On en parle avec vous, auditeurs de Sud Radio.
Mais vous n'avez pas 6 jours pour nous appeler. Il faut nous appeler tout de suite au 0826 300 300.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et vous nous appelez au 0826-300-300, c'est en tout cas ce qu'a fait Dust qui nous appelle de Héran. Bonjour Dust.
Oui, bonjour Dust.
Bonjour André, bonjour Monsieur Bonzel. Globalement, je suis entièrement d'accord avec ce que vous écrivez sur les GAFAM. Je soulignerai juste le coup de génie de Google, quand même, avec son moteur de recherche. Je les ai pas mal testés et c'est quand même celui qui est le plus pertinent. Mais je me demandais si ce que vous décrivez n'a pas été possible grâce quand même à une certaine addiction de ces écrans qui nous rendent quand même assez dingues, qui ont bouleversé notre société en l'espace de 20 ans et qui, dans certaines catégories d'âge, posent problème, notamment avec les gamins et les plus jeunes qui vont jusqu'à présenter des symptômes comme les junkies, d'hyperagressivité quand on essaie de les limiter dans leur consommation.
Oui. Ah oui, l'addiction,
c'est,
quoi.
C'est ça qui a favorisé l'organisation et démultiplié l'effet du développement de ces GAFAM.
Alors que faire avec les accros du cyberespace, effectivement, en 20 ans, une nouvelle génération, dit Dust. Olivier Bomsel, oui.
Alors, on n'est pas... addict de la même manière à Google, à Amazon ou à Facebook. Je pense que l'application qui est le plus source d'addiction, c'est Facebook, c'est la socialisation, parce que elle a un effet narcissique qui est absolument considérable. Elle permet de fabriquer sa propre image et de mettre cette image en relation avec toute une série d'autres personnes qui sont à la recherche finalement de la même chose et du même type de sensations. Et au fur et à mesure que ces relations s'enrichissent et s'étendent, elles deviennent de plus en plus captivante, obsédante pour ceux qui s'y adonnent, et il y a une source d'addiction. Cela dit, vous évoquez les jeunes ont toujours été plus sujets aux addictions que les personnes plus âgées. Les économistes ont pas mal regardé ces phénomènes. C'est lié au fait que ils ont une soif de résultat qui est beaucoup plus immédiate, beaucoup plus courte que les gens plus âgés. En économie, on dit qu'ils sont myopes, c'est-à-dire qu'ils ne voient que de près. Et donc,
ils veulent le résultat immédiat, quoi.
Absolument. Donc, ouais. On a beau leur dire, par exemple, que fumer donne le cancer et qu'on meurt du cancer à partir de 40 ans, si à 15 ans, fumer vous donne une identité sociale et vous permet de vous insérer dans des groupes d'amis, les fabricants de tabac l'imaginent très bien et rendent les cigarettes de plus en plus attractives et addictives pour les jeunes gens. Il y a eu des procès là-dessus aux États-Unis.
Même chose pour le cyberespace. Augustin.
Merci Dust pour votre question. Nous sommes maintenant avec Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Pierre.
Oui, bonjour. Alors, deux questions très rapides. De qui les GAFAM peuvent servir les intérêts au-delà de leurs propres intérêts? Et pour répondre à cette question, à qui appartiennent les GAFAM? Voilà. Est-ce que votre invité a une question là-dessus? De qui peuvent-ils servir l'intérêt au-delà de leurs propres intérêts?
Et à qui appartiennent-ils?
Et du coup, à qui appartiennent-ils? Voilà. Qui sont les propriétaires et qui décident, en fait? Voilà.
D'accord.
Alors, Olivier Bomsel. Merci. Les GAFAM depuis le début ont compris, et le gouvernement américain
C'est une société privée, hein, complètement privée.
Oui, ce sont des sociétés. Au départ, ce sont des sociétés privées, mais ce sont des sociétés privées qui cherchent à bénéficier d'un environnement maximalement favorable pour développer le business.
C'est ça.
Or, les règles du business sont fixées par le politique, et donc il faut trouver, si c'est possible, des accommodements.
Bien sûr.
Alors que les promoteurs d'Apple et Microsoft étaient plutôt des gauchistes un peu radicaux, les promoteurs des plateformes numériques ont toujours compris qu'il était dans leur intérêt de discuter étroitement avec le gouvernement américain et le Pentagone, et que c'était des sources de que leurs activités allaient être des sources d'information conférant aux États-Unis un pouvoir d'influence non négligeable.
Donc travailler avec l'armée, travailler avec la sécurité, travailler
avec la NSA, avec etc. Ouais. D'où l'enjeu très important des données qu'il y a derrière. Et si vous voulez, ces sociétés, tout en étant des sociétés cotées et publiques, sont néanmoins très peu transparentes sur le développement de leurs activités, sur les algorithmes qu'elles utilisent, sur l'usage qu'elles font des données, et échangent fatalement très souvent avec les autorités politiques et militaires américaines. Juste pour vous donner un exemple, Google, c'est pas seulement un moteur de recherche, c'est aussi la plateforme Android qui permet d'accéder aux services sur tous les smartphones non Apple.
Ouais, c'est ça,
et donc, ouais. À ce titre, à travers Android, Google est en mesure de tracer quelques milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Et si, par exemple, dans un pays, on installe la censure, ils peuvent assez rapidement savoir quel est le nombre d'utilisateurs de smartphones qui va chercher à se connecter à un VPN, à un système satellite qui permette d'échapper à la censure. C'est des sources d'informations absolument considérables.
Et ils les ont dans un temps record en plus.
Absolument.
Et quand on dit qu'ils possèdent, on peut dire justement la question que posait Pierre, est-ce que on peut dire qu'en fait, est-ce que aujourd'hui, le Google et compagnie, bon, les fondateurs évidemment sont toujours là, mais ce sont des actionnaires, c'est une société d'actionnaires, voilà, ce sont eux qui les possèdent.
Ce sont des sociétés cotées, publiques et soumises à la loi américaine.
Et alors, en fonction de ce que vous avez dit, juste Olivier Bomsel. La pression du politique depuis 20 ans, 25 ans est très forte. On l'a vu parce qu'il s'exerce soit contre des gens, exemple Trump, soit pour des gens, etc. Est-ce que la pression du politique, le rapport, est un rapport plutôt conflictuel ou au contraire, comme vous l'avez dit, on utilise ces gens-là, donc on a besoin d'eux, etc. Donc
Jusqu'à présent, jusqu'à la prise du Capitole, si vous voulez, ouais. les relations entre les big tech de la Silicon Valley et le pouvoir politique et militaire, qu'on ne voit pas toujours, ont été, de mon point de vue, très connivantes. Mm-hmm. On a laissé ces sociétés non seulement construire des monopoles dans la recherche, dans le commerce, dans la socialisation, mais on les a laissés aussi faire des acquisitions leur permettant d'étendre leur pouvoir et leur contrôle sur l'activité en ligne.
Donnez un exemple. Par exemple,
on a laissé Facebook acheter WhatsApp, qui était un logiciel de communication privée, de messagerie privée à l'époque, acheter Instagram, qui était une boîte qui gagnait pas un sou, mais qui, avec un produit populaire qui était l'échange de photos, avait gagné très vite 6 millions d'utilisateurs et qui faisait courir à Facebook le risque que on construise un profil de socialisation à partir d'Instagram et pas à partir de la page Facebook.
Donc ils l'ont racheté.
Moyennant quoi,
aucun problème.
Sans aucun problème. On les a laissés faire. Dès qu'ils ont été en bourse, dès que ils ont eu, Facebook a attendu d'avoir tué ses concurrents pour rentrer en bourse. Ils se sont vus un peu trop beaux, leur entrée, et le marché les a pas très bien compris, donc leur entrée en bourse s'est pas très bien passée au début. N'empêche qu'ils ont quand même utilisé toutes les ressources qu'ils avaient levées à ce moment-là pour acheter des boîtes complémentaires qui leur ont permis d'étendre leur emprise sur le net.
Merci Pierre, vous vouliez réagir Claude, pardon, Pierre, vous vouliez réagir? Nous sommes avec Claude qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude.
Oui, bonjour André Bercoff et bonjour à votre invité Olivier Baumsel, dont j'apprécie la clarté, la profondeur et je suis en total accord avec ce qu'il a expliqué. Je suis utilisateur comme beaucoup des réseaux sociaux, mais je m'interdis et j'interdis à ceux que j'aime d'y mettre des photos personnelles parce que je sais que 20 ans après, ça peut ressortir. Non, mais j'appelais pas tout à fait pour ça, André Bercoff. Je vous appelais parce que vous avez au début, en présentation de votre émission, vous avez rappelé la question du référendum et du débat qu'il y a autour. Oui. Je voulais simplement mentionner le fait que un gaulliste historique incontestable qui s'appelle Henri Guénaud, et qui a un rôle dans une association qu'ils appellent Notre France, a envoyé à tous ceux qui l'apprécient une lettre ce matin par Internet, dans laquelle il explique en quoi c'est scandaleux de dire qu'on ne pourrait pas changer un élément de la Constitution par référendum en application de l'article 11 de la dite Constitution. Il réitère que ce débat a été tranché depuis longtemps. Oui, c'est possible. Par conséquent, tous ceux qui, même dans les partis traditionnels gaullistes aujourd'hui, disent que c'est impossible sont en fait des militants ou des menteurs. Et il dit une deuxième chose aussi, un autre argument qui est aujourd'hui mis sur la table, c'est que demander que le droit national soit supérieur au droit européen, il explique que ça déclenche de l'hystérie chez nous, mais ça déclenche de l'hystérie uniquement parmi ceux qui veulent faire une Europe fédérale dans le dos des citoyens. Je crois que c'était intéressant de mentionner que tous ceux qui aiment et qui apprécient Henri Guénaud recherchent un peu ce qu'il a dit là-dessus, parce que clairement, oui, on peut par référendum faire énormément de choses.
Tout à fait. Alors écoutez, vous nous avez devancé, mais vous avez bien fait, on a reçu la lettre d'Henri Guénaud que Augustin m'a transmise et nous allons essayer d'avoir Henri Guénaud et en tout cas nous en parlerons demain dans l'émission, c'est clair.
Merci André.
Voilà. C'est un vrai problème et un vrai enjeu.
Merci à vous Claude et puis vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour interpeller notre invité sur le sujet des GAFAM.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Oui, le général de Gaulle n'avait pas passé son appel sur YouTube. Nous sommes avec Grégory qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour Grégory.
Oui, bonjour Grégory.
Oui, bonjour. Bonjour messieurs. Alors déjà, je tiens à remercier les intervenants avant moi parce que j'ai eu quand même pas mal de réponses à mes questions. Mm-hmm. Parce que ma question est un peu plus primaire.
Non, mais allez-y, pas de problème.
Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, moi, je suis pas un adepte de Facebook. Mm-hmm. Je suis plus un adepte de VK, par exemple, mm-hmm. où on peut converser et échanger plus librement.
VK.
Bah, VK.
Je connais pas, j'avoue, je ne connais. VECA, c'est ça?
Non, c'est VK.
Ah, VK, simplement. Les deux lettres.
Voilà.
D'accord.
Deux lettres.
Et alors, voilà. Oui, allez-y, Grégory.
Donc, il se passe que sur ce système-là, les choses sont beaucoup plus claires et on peut converser et échanger sur des choses qui sont peut-être un peu plus profondes que sur Facebook, par exemple, où on peut être censuré.
Mmh. D'accord.
Voilà. Donc, ma question était pourquoi et comment. Par exemple, Facebook, dans la mesure où c'est un système qui est lié à des réseaux, hein, c'est un réseau social, donc il crée de l'intercommunauté. Pourquoi certaines choses ne peuvent pas
Pourquoi il y a de la censure, vous voulez dire, c'est ça?
Exactement. Ouais. Parce que de temps en temps, moi, je mets des choses sur Facebook, et puis après, on me dit, mais Grégo, on n'a pas pu lire.
Mais d'accord. Pourquoi c'est censuré? Olivier Baumsel.
Voilà.
Ben, c'est simple. Le modèle de Facebook, c'est de gagner de l'argent avec de la publicité. Donc, ils ont une ligne éditoriale qui vise d'un côté à avoir un maximum d'utilisateurs et des utilisateurs le plus jeunes possible. Donc, ils éliminent, par exemple, tout ce qui est à connotation sexuelle ou même si vous montrez l'aréole d'un sein, ou etc., vous allez être censuré. Et en revanche, ils n'hésitent pas à passer un coup d'algorithme pour relancer des discussions, pour remettre une pièce dans le jukebox, etc., et faire en sorte que les gens passent plus de temps en ligne. Ce qui se passe, c'est que quand la polémique atteint un degré de violence insupportable, on l'a vu au moment de la campagne présidentielle américaine, ouais. Les annonceurs considèrent que ça n'est pas dans leur avantage, ça n'est pas dans leur intérêt d'apparaître sur des forums où les polémiques sont trop violentes, et où d'une manière ou d'une autre leur marque image, pourrait être connotée, leur image dégradée, etc. Et donc les annonceurs à un moment donné ont dit qu'ils allaient quitter Facebook. Ils l'ont fait, certains d'entre eux ont suspendu leurs accords pour quelques mois, le temps de la campagne présidentielle américaine. Et tout ça incite évidemment les actionnaires de Facebook à édicter des règles de modération qui sont secrètes, que personne ne connaît.
Oui, c'est pas du tout transparent, ça.
Non, mais qui ont pour objectif de maximiser le retour sur investissement de Facebook. Ouais. Quand vous n'êtes pas le leader du marché, ce qui est le cas de VK, je présume, vous pouvez être un média de niche dans lequel vous allez attirer des conversations ou des formes de socialisation d'un autre genre, qui peuvent aller jusqu'à la messagerie sadomaso, que sais-je, et vous allez trouver des annonceurs prêts à aller rechercher des cibles dans ce public.
C'est la niche. Enfin,
donc c'est la niche. Tous les médias n'ont pas la même ligne éditoriale, et c'est un peu comme ça, à mon avis, qu'il faut l'interpréter.
Bien sûr.
Merci Grégory pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour André, bonjour à votre invité. Alors, je partage beaucoup de choses que votre invité a dit sur les GAFAM. Par contre, je voudrais apporter une précision. Sans l'un des fondateurs de Sun Microsystem, Google n'existerait pas. Il faut le dire clairement, Andy Bechtolsheim a financé Google à la porte de $100 000. Ça lui a rapporté des milliards de dollars, en l'occurrence. Donc, s'il n'était pas passé derrière, Google ne serait rien.
C'est vrai, mais en même temps, il n'aurait pas gagné des milliards de dollars, votre indication.
Il avait déjà beaucoup d'argent avec Sun Microsystem, mais d'accord. Il en a gagné encore beaucoup plus en d'accord. finançant les deux fondateurs de Google, parce qu'il a cru à l'idée, mais s'il n'était pas là, rien n'existerait. Sur Apple, évidemment, oui, ça a été fondé par Dizzy Ellis et par plusieurs personnes. Il y a Jeff Radkins, il y a Wozniak et
Steve Jobs.
Faut savoir une chose, il y a une anecdote sur Steve Jobs, il fallait éviter pour un employé d'Apple de se trouver dans un ascenseur avec lui, parce que c'était un work alcoolique et c'était quelqu'un qui vous bombardait de questions et qui vous détruisait, c'était quelqu'un qui était néfaste pour ses employés, Steve Jobs. Il avait, beaucoup de gens s'en sont plaints après l'aventure Next, des gens qui ont eu des congés maladie longue durée et qui ont souffert avec lui. Par contre, c'était pour moi un simple vendeur de soda, Steve Jobs, parce que les vrais fondateurs, les vrais qui ont innové, ce sont les gens derrière le hardware. Apple a une particularité aujourd'hui, c'est qu'ils font du jetable. Ils reviennent à leur vieux démon des années 90. C'est désolant.
L'obsolescence programmée. Non, d'accord. Mais voilà. on va. Non, mais merci pour ces anecdotes, mais il faudrait revenons à quelque chose. Justement, Olivier Bumsel, parce que c'est en creux dans votre livre, mais quand même, vous en parlez un peu à la fin. Parce qu'on parle justement de ces géants américains, de cette mainmise absolue, de ce verrouillage dont vous parlez dans votre livre des clients, enfin, le verrouillage des marchés, quoi. C'est, la conquête de l'Ouest a été faite, c'est réussi. Comme disait, le grand milliardaire de Walmart, Warren Buffett, il disait, oui, la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. Est-ce que là, alors, quid de l'Europe ? Alors l'Europe, est-ce qu'elle elle est condamnée à être, voilà, un figurant pour le moment, effectivement, on parle de toutes ces... Il n'y a pas une, il y en a en Chine, mais il n'y a pas de GAFAM européenne, enfin, à ma connaissance. Et alors simplement, qu'est-ce qu'on entend? On entend effectivement les leaders européens dire, oh, oui, oui, au moins qu'ils payent leurs impôts, ils ne payent pas assez d'impôts, etc. Alors ils le reçoivent. Quid de ce qui se passe chez nous?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement de ces firmes s'appuie sur des effets de taille. Et qu'aux États-Unis, les effets de taille, ils sont dans la conquête d'un territoire immense, d'une société qui parle la même langue, et au moment où on lance le cyberespace, d'un univers de communication que chacun perçoit comme étant potentiellement infini. En Europe, on a beaucoup de mal à fabriquer des effets de taille, parce qu'on est des petits pays, en termes de population, avec 24 ou 25 langues différentes, ce qui ne facilite pas les échanges. Et au moment où le web a été lancé, on était extrêmement contents, fiers, et à juste titre, je pense, en Europe, d'avoir inventé un standard de téléphonie, le GSM, qui permettait de développer une industrie de télécom mobile à l'échelle du continent, avec des champions européens de ce métier. Ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que la téléphonie allait être complètement dépassée par l'échange de données, que c'était ça la logique de la numérisation, et que l'avance que prenaient les Américains en lançant le cyberespace avant nous allait nous retomber sur les pieds à la fin. Et donc, l'Europe s'est toujours battue pour trouver des effets de taille avec un handicap qui était très fort par rapport aux grands pays monolingues, aux grands continents monolingues que sont la Chine ou les États-Unis. Et quand votre interlocuteur dit qu'il faut restaurer une souveraineté française, etc., et se bat contre le fédéralisme européen, si on va dans cette voie-là, on est sûr de jamais trouver les effets de taille qui nous permettent d'exister face aux géants mondiaux qui vont être présents sur les marchés et de toujours dépendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, n'ayant pas fixé les conditions de développement des firmes du web, étant dépendant des Américains pour leur régulation? On essaye de traiter les symptômes, les effets néfastes.
Les effets, ouais,
et ça. Donc, on a fabriqué une régulation européenne là, que Thierry Breton et Margaret Vestager ont lancé à grand renfort de publicité il y a quelques jours, dans lequel on va essayer d'empêcher, de prévenir un peu mieux les abus de position dominante des grands monopoles numériques, en imposant des conditions ex ante. Mais
c'est
des palliatifs, exactement. Ouais. Parce que le problème de fond, c'est celui de l'antitrust tel que les Américains l'ont développé dans les années 1905-1910, c'est-à-dire le démantèlement. Il faut se demander si Google, en tant que moteur de recherche, doit détenir Android, s'il doit avoir Waze, s'il doit avoir Maps, s'il doit avoir Google Shopping, etc.
Appliquons la loi antitrust.
L'antitrust s'applique pour que les monopoles ne puissent pas faire de la concurrence à leurs clients.
Oui, mais alors justement, est-ce que c'est... Alors, donc, pour vous quand même, soyons absolument clairs, le retard est irrattrapable par rapport à leur... Est-ce qu'on peut construire des géants alternatifs, des géants, en tout cas, des plateformes alternatives où il y aurait suffisamment de clients qui iraient vers X, Y ou Z européens plutôt que d'aller chez WhatsApp, etc. Est-ce que c'est rattrapable ou franchement c'est irrattrapable?
Je pense que dans les trois fonctions que sont la topographie, le commerce et la socialisation, malgré la montée en puissance de TikTok, qui est une menace pour Facebook, ça va être très difficile de les battre.
Ouais.
Ça va être très difficile de les battre, et que dans la conjoncture mondiale actuelle, les Américains n'ont pas intérêt à les démanteler.
Oui, c'est
en
sûr,
revanche... Ouais. Si on veut se spécialiser sur le rendez-vous médical, On peut faire de Doctolib une plateforme qui soit mondiale. Sauf que Google est en train d'investir dans un Doctolib américain qui, à la fin, viendra peut-être, si personne ne les arrête, bouffer le Doctolib français.
Ah, le lièvre et la tortue, c'est pas facile. Merci Olivier Bumsel.
Et c'est une belle conclusion par rapport à votre sous-titre « Qui peut réfréner les géants du web ?» Je rappelle le titre de votre livre « Nouveau Western » aux éditions du Cherche Midi. Et tout de suite, Brigitte Lahaye.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.